good, I would not. I feel good, I knew that I would not. So good, so good, I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour prendre le temps d'aller à la rencontre d'un homme, cette fois-ci, d'un faiseur, d'un facilitateur, cette fois-ci. C'est mon invité, c'est Frédéric Cunier-Royer qui travaille pour l'État à accompagner toutes les démarches d'EducPop, entre autres, et puis... On fera un panorama un petit peu stimulant aussi avec son expérience. Mon invité donc, Frédéric Cunier-Royer.
So good, so good, I got you.
Salut Frédéric.
Bonjour Christophe.
Alors on arbore nos beaux badges I Love EducPop parce que... toi et moi, on adore ça.
Oui, et en plus, moi, j'en ai fait mon métier, c'est encore mieux. Parce que je suis conseiller d'éducation populaire et de jeunesse, une race très particulière d'agents de l'État placés dans les services départementaux de l'éducation nationale en charge de la jeunesse et des sports.
Donc, tu es au sein de ce ministère, en charge...
De la vie associative, particulièrement. Voilà, principalement, en fait, il y a deux volets. C'est la vie associative en général, avec une mission... pour tous les secteurs associatifs, qui est de délégué départemental à la vie associative. Hein, d'ailleurs, une campagne pour le Fonds de développement de la vie associative en cours pour déposer des subventions. Et aussi, spécifiquement, aux associations et fédérations de jeunesse et d'éducation populaire, qui sont quand même un acteur important dans le département, parce qu'on a près de 580 associations qui sont agréées, 6 fédérations. Et c'est
combien d'associations?
580.
580 d'EducPop.
Oui, parce qu'on doit toutes les renouveler actuellement, donc ça nous fait beaucoup de paperasse.
Ouais. 500. Alors, l'EducPop, ça se définit comment? Et puis après, on verra en quoi l'État soutient et comment et pourquoi l'État soutient. L'EducPop, c'est quoi?
C'est, alors, la définition, c'est d'abord une pratique, l'éducation populaire. Ce n'est pas une idéologie ou une théorie. C'est, globalement, on appelle ça la mobilisation de la culture pour la transformation sociale. Ça va de l'activité d'animation socioculturelle, mais aussi aux activités de démocratie participative locale, comme un conseil citoyen ou le conseil de développement durable sur la métropole. Ça peut être aussi ce qu'on appelle la capacitation citoyenne, c'est l'acquisition de compétences pour prendre part au débat public. On le voit par exemple avec les concours d'éloquence actuellement, mais ça concerne aussi les activités globalement de jeunesse en général, puisque la jeunesse nécessite, du fait de sa situation de dépendance, un accompagnement et une aide à l'autonomisation et à l'émancipation.
Ça nous vient d'où? Ça a émergé où? Ça n'arrête pas de se transformer. Oui. Mais, et on verra un petit peu les dernières transformations, si tu veux bien. Mais qu'on regarde un petit peu son origine et puis son évolution.
On a trois branches historiques. C'est la branche catholique, déjà. Le sillon Marc-Sangnier qu'on trouve encore avec des héritages ici, avec le mouvement rural, la jeunesse chrétienne ou d'autres, c'est... cette partie-là, on a une partie aussi purement
laïque. Donc ça, c'est les mouvements un peu autour des paroisses, autour de l'Église, oui. Institutions qui ont créé des mouvements d'éducation populaire.
Y compris la création d'activités socio-éducatives, de vacances, mais ça pouvait être des clubs de lecture, des bibliothèques. Ça peut être aussi des œuvres de vacances, comme le Trupt pour l'association du Trupt, la colonie de Laxou. Donc des activités à destination des jeunes avec un but éducatif, mais on a aussi le pendant laïque organisé par exemple autour de la Ligue de l'Enseignement avec tout cet ensemble d'associations autour de l'école publique. Et on a enfin un autre volet qui est aussi celui qui est lié aux organisations syndicales, puisqu'il y a toutes ces activités autour des comités d'entreprise, des activités de voyage, de tourisme social ou d'autres qui aussi sont dans ce domaine. Donc globalement, on a des origines diverses et variées qui font que maintenant, on a quand même un fonds important en termes d'associations. Ça peut être les maisons des jeunes et de la culture, les centres sociaux, les foyers ruraux, les associations familiales rurales. Enfin, voilà, on en a beaucoup dans le département. Et ça correspond aussi à des modes d'organisation locales de personnes qui s'organisent entre elles pour éventuellement travailler sur un sujet, et notamment par des supports culturels, faire du théâtre amateur, faciliter, projeter un film, mais éventuellement avoir un débat après, enfin, parce qu'on a des activités au caméo, mais on en a aussi en milieu rural, par exemple, ou des activités de ciné-débat organisées par les Francas, ou des cafés philo, enfin, on a plein de structures comme ça qui existent et qui se mobilisent sur le territoire, qui sont d'abord carburant au bénévolat aussi.
Alors, tu me fais la transition, comment va l'Éduc'Pop aujourd'hui?
Leur mouvement national patronal, on va dire, exopé, vient de lancer une campagne Sauvons l'Éduc'Pop. C'est clair que la situation est compliquée depuis le Covid par rapport à la pratique des financements des activités. Il y a aussi des problèmes généraux liés à la décrue des financements publics liés aux conditions, la guerre en Ukraine, l'augmentation du coût de l'énergie, etc. Il y a aussi un immense besoin d'Éduc'Pop actuellement que tout le monde ressent avec des nouvelles formes qui apparaissent sur la participation des personnes en quartier prioritaire, sur la participation des minorités, des exclus. C'est particulièrement important d'arriver à les accompagner, à construire une parole collective.
Ouais, c'est pas facile. On vient de vivre une expérience à la radio, très récemment. Et j'en profite pour faire un coucou à une autre Frédéric, avec UE à la fin, où justement, la possibilité d'être en dialogue est difficile aujourd'hui quand même.
Oui, c'est aussi pour ça que l'Éduc'Pop, elle mobilise un certain nombre de pratiques, comme le théâtre forum, comme le débat mouvant, il y a plein aussi de ce qu'on met souvent sous l'étiquette animation. Il y a souvent cet aspect-là aussi. Un débat, ça s'organise. Un débat, c'est pas juste quelqu'un qui vient dire ce qu'il pense aux autres et qui recueille pas la parole. On a eu l'occasion en 2015 d'organiser ça en juin à Saint-Max, la salle de Gérard Léonard à Saint-Max, avec une centaine de jeunes et cinq ministres qui venaient écouter la parole des jeunes dans le cadre du plan interministériel jeunesse ou d'autres. Et on s'est aperçu que la difficulté, c'était pas de faire parler les jeunes. Ça, il n'y avait pas de problème. Ils parlaient, ils avaient des propositions, des choses qui les fâchaient. La difficulté, c'était d'arriver à faire en sorte que les élus acceptent d'être dans une situation où ils étaient là pour écouter et pas forcément uniquement retraduire un discours descendant. Donc ça, c'est compliqué, parce que là, par nature, l'éducation populaire, c'est de la base vers le haut, quoi.
Alors, si je reprends l'exemple de la radio qu'on a vécu à la MJC, vraiment tout un réseau super, vraiment un super réseau avec la MJC avec laquelle on travaille beaucoup, Pichon en l'occurrence, mais on bosse avec plein d'AMJ. Il y a eu un besoin de revendication très fort. On était sur de la discrimination liée au genre, on était sur un besoin de reconnaissance d'abord, avant de pouvoir commencer à s'exprimer. Et on a pu. Et il a fallu du temps. Aujourd'hui, est-ce qu'on a encore ces lieux? Est-ce qu'on n'est pas en déficit de lieux? Est-ce qu'on n'est pas en déficit? Alors tu dis, il y a d'autres méthodes pour rentrer en dialogue. Est-ce qu'on a les moyens humains de mobiliser ces nouvelles méthodes aujourd'hui?
Alors, je crois que déjà, oui, on a besoin de lieux, on a besoin d'espace, on a besoin de moments aussi où on accepte du débat. On accepte du débat qui ne soit pas que de la confrontation bloc à bloc, parce que l'objectif, c'est la transformation sociale dans l'éducation populaire. Donc c'est aussi pour faire avancer les choses et un sujet. Je crois que la difficulté qu'on a en partie, c'est que on a de plus en plus une organisation qui fait que on va avoir une organisation par affinité ou par rapport à une cause, par exemple féministe ou d'autres. Après, je voudrais surtout pas jeter la pierre. On a aussi justement le début d'une logique d'intersectionnalité des luttes ou d'autres. Et on voit bien que des acteurs traditionnels peuvent être, qui sont souvent plus universels ou qui ont une approche différente, ont un peu de place à réfléchir à la place de la minorité, à son expression, à la manière dont elle peut échanger par rapport à ça. Et c'est vrai que ça reste compliqué, parce qu'on peut avoir, on a besoin de beaucoup de travail pour, d'une part, être sûr qu'on parle le même langage, qu'on met la même chose derrière les mots, et ensuite. Donc c'est pour ça que tout ce travail itératif qu'on peut avoir dans le cadre de l'éducation populaire en termes de méthode, de manière de se parler ou d'autres, c'est important parce que c'est pas juste une segmentation d'activités et de public qui fait ça. Il faut faire arriver à faire émerger une parole commune et éventuellement les moyens après de faire évoluer un sujet qui te mobilise, quoi. Mmh. Donc il faut arriver aussi à sortir de la simple réaction épidermique par rapport à une lutte, par rapport à quelque chose qui fait réagir, qui a toujours été, enfin, les jeunes qui s'organisent pour laver des voitures parce qu'ils ont envie de partir en voyage, qu'on appelle les chantiers contreparties ou d'autres, qui répondent à un besoin de loisirs collectifs organisés là-dessus. Bah, on a une réponse immédiate, mais on voit bien qu'il y a besoin de cet accompagnement, il y a besoin de ce temps long aussi, de se mettre en projet, d'aller chercher, il y a aussi aller chercher de l'aide, des soutiens, etc. Ça fait partie de la démarche. L'objectif, c'est pas juste de partir en voyage. L'objectif, c'est d'avoir fait quelque chose en collectif. Donc il y a toujours cette notion de réalisation d'un chantier collectif.
Il a la foi, Frédéric.
Oui, on est laïque. Hein. Même si l'éduc pop n'est pas entièrement laïque. Ouais. Voilà, il y a les éclaireurs de France sont ouais. laïques, mais ouais. les scouts et guides, non, par exemple.
Non, mais la foi dans l'éduc pop, bien évidemment. Oui. C'est depuis toujours. On va rentrer un peu dans le domaine plus le cheminement et comment on en arrive là.
Moi, j'y suis arrivé sur le tard. Je suis un converti, c'est pour ça peut-être les convertis sont souvent les plus intégristes ensuite. Mais en fait, j'ai fait ça par hasard en revenant sur mon parcours. Mais initialement, j'étais beaucoup engagé dans la vie étudiante à Nancy. Hein, j'étais président de l'association des étudiants nancéens, donc l'ancêtre de Fédélor, hein, dans les années 90. On avait organisé un certain nombre de choses, notamment autour de la qualité de vie et de l'accueil des étudiants dans la ville. Alors, ça a beaucoup d'écho avec l'actualité actuellement. Et effectivement, on avait les associations de filières. Moi, j'étais en géographie, donc le groupe Lorrain des étudiants en géographie, hein, le GLEG, hein, fondé en 49.
Pas sur le point de vue, ça y est. Oui.
Mais aussi la participation aux instances universitaires, où on était en conflit avec le président de l'université sur les droits d'inscription illégaux, sur les lacunes de la médecine universitaire, ou des choses comme ça. Ou au CROUS, hein, parce que j'étais élu au conseil d'administration du CROUS en même temps que Mathieu Klein à l'époque.
Une forte activité syndicale, alors.
C'est une activité représentative, parce que par nature, les associations étudiantes, c'est pas des syndicats de salariés, ça rapproche beaucoup. Et j'ai eu des responsabilités locales, comme président de la fédération des associations étudiantes de Nancy, puis nationale, comme au sein de la fédération des associations générales étudiantes, la FAGE, qui est une organisation étudiante qui existe toujours, et dont j'ai accompagné les débuts à partir de 94. J'avais des responsabilités nationales là-dedans, puis même internationales, ce qui m'a valu à la fin d'arriver, comme je disais, parmi les dates marquantes, comme représentant des organisations nationales étudiantes au sein de la Conférence mondiale sur l'enseignement supérieur de l'UNESCO, donc en 98, où on est arrivé, plus la date exacte, j'ai vérifié, c'est loin, mais où se retrouver après au cœur du savoir au palais de l'UNESCO à Paris pour discuter des droits étudiants, de la qualité des études ou d'autres, ce qui va ensuite enclencher le processus de Bologne et un certain nombre de choses. C'était vraiment un moment vraiment très étrange, quoi.
Alors ça fait partie de tes trois dates importantes dans ta vie. Donc tu m'avais indiqué le 9 octobre 1998. En quoi c'est un moment qui pose, en quoi c'est un moment repère et en quoi aujourd'hui c'est un lieu de totem?
Ouais, parce qu'effectivement, on était passé d'une représentation d'une fédération associative ou d'autre à une organisation étudiante à l'échelon national, voire européen, puisque j'avais aussi été le représentant de la FAGE à l'Union européenne des organisations étudiantes, qui est en train de se créer, de se consolider à l'époque, et où on construit à l'échelle européenne, enfin, Europe de l'Ouest, on va dire, une parole pour représenter les étudiants face à l'organisation générale. Et là, en l'occurrence, c'était l'UNESCO dans le cadre d'une conférence mondiale. Donc on a pu aussi rencontrer des étudiants d'autres pays, d'autres nationalités, d'autres continents. C'est pas pareil de discuter avec ceux du Moyen-Orient à l'époque, c'était en 98, 10 ans après la chute du mur, pour les pays de l'Est, c'était pas terrible non plus en termes de vie étudiante et de démocratie étudiante, mais pour défendre le fait que les étudiants soient partie prenante, le fait que les études doivent aussi penser à l'accès à l'éducation pour les jeunes filles, notamment, parce qu'il y avait des pays où c'était absolument pas possible, où ça l'est toujours pas actuellement, comme l'Afghanistan. Et on voit bien que déjà à l'époque, c'était une déclaration, on va dire, socle de nouveaux droits, de ce que devrait être, à minima, l'engagement collectif au niveau mondial pour améliorer l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes.
Je me permets d'être un peu provoque, mais alors ces grands-messes, tu es en train de me dire que ça sert quand même à quelque chose ?
On pourrait dire,
écoute, oui, on s'est réunis, ils sont venus, ils sont repartis, puis rien n'a changé.
J'ai eu cette question-là, notamment quand on était à une réunion de l'ESIB, l'organisation étudiante européenne qui préparait ça, et on votait la résolution, les motions, etc. Et il y avait un point sur l'accès des femmes, à l'éducation, notamment dans la couronne sahélienne, en Mauritanie par exemple, ou d'autres. Je pose la question, il est quoi le problème ? Pourquoi est-ce qu'on met ça ? Le problème, c'est qu'elles n'ont pas accès pour l'instant à ça. Donc, il y a besoin d'avoir ce point-là. Et je crois que ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'on est sur des processus qui sont sur du temps long, qui nécessitent... Voilà, au bout de 10 ans, 10 ans après, on a commencé à voir le processus de Bologne, un certain nombre de choses qui ont changé, et maintenant, des choses qui évoluent dans l'enseignement supérieur. Voilà, moi, j'étais étudiant, Erasmus, c'était la croix et la bannière pour partir en Erasmus. Tu pouvais partir, mais c'était pas validé dans tes études. T'avais pas, sauf si tu partais à une ou deux, trois communes qui étaient partenaires du conseil régional, tu n'avais pas de soutien. Et on voit bien la construction lente que ça peut représenter. Donc c'est difficile de se dire oui, il y a ça. Est-ce qu'on a des résultats globalement par rapport à ça? Je peux donner un exemple, c'est que juste avant, on avait négocié un plan social étudiant quand c'était Bérou Premier ministre. Avec un premier ministre, lié à l'actualité, à l'éducation, justement, dont l'enseignement supérieur. Il avait sorti des états généraux, beaucoup travaillé comme organisation étudiante là-dessus. On avait même négocié donc un plan social qui comprenait la sortie de la demi-part fiscale, puisque c'est elle qui bloque tout par rapport aux étudiants. Et juste à ce moment-là, Monsieur de Villepin décide de dissoudre, et il n'y a plus de plan, et on n'a toujours pas réglé cette question de la demi-part fiscale qui bougeait beaucoup. Donc, oui, il y a un travail souterrain, il y a un travail de conseil, un travail de commission, d'amendement, de motion, etc. C'est très dur d'en voir des victoires ou des choses vraiment à apporter, mais il y a souvent, parfois, tu montes d'un palier à l'autre, quoi.
Les grands projets demandent du temps, et puis il faut réussir à déconstruire parfois des murs. Allez, petite pause musicale, sans transition, ou presque.
Dogs are handsome in the classroom.
11e album de ce groupe britannique mythique Pink Floyd, c'était The Wall sur RCN.
I Feel Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Pourquoi The Wall?
C'est un peu étrange. J'ai toujours été frappé par le clip que je trouvais extrêmement moche. Mais vraiment, ce dessin animé avec les marteaux, etc. Quand j'y repense, de plus en plus, notamment depuis que professionnellement on a été intégré au service de l'éducation nationale, on réfléchit de plus en plus à la dimension éducative de ce qu'on fait, et on s'aperçoit bien que voilà, dans l'éducation populaire, il y a aussi éducation. Et ce point-là, c'est vraiment cette chanson-là, c'est vraiment un hymne à l'opposé de la forme, enfin en opposition à la forme scolaire. Ils sont pas contre l'éducation, ils sont contre la forme scolaire autoritaire en uniforme avec des punitions, des sanctions, des brimades à la mode voilà établissement anglais. Hein. On parle pas de ce qu'on a en France forcément, mais c'est l'éducation, ça peut être autrement. Et l'éducation populaire, c'est ça, c'est les écoles du soir pour ouvriers, c'est ce qu'on apprend à l'occasion d'une colo, c'est le vivre ensemble, le lien social et tout, c'est autre chose et une autre forme. Donc c'est vraiment pour moi un repoussoir. Et je trouve que cette chanson, en plus la musique est quand même pas mal, hein, traduit bien ce point. Et c'est tellement inhérent en fait à l'activité qu'on a et à ce qu'on fait au quotidien au boulot que c'est et dans les différents engagements qu'on peut avoir que c'est voilà c'est une référence quoi.
Dans les différents engagements et puis aussi en lien avec l'éducation d'ailleurs une deuxième date importante dans ta vie elle est plus personnelle mais tu souhaites aussi nous la partager pour peut-être aussi pour faire bouger les lignes, faire écho, faire partager en tout cas. C'est le 24 juin 2013.
Oui, alors la date elle est à peu près approximative, mais ça correspond à la visite médicale des 2 ans de mon fils Victor, hein, qui est né donc, le 24 juin 2011. Coucou Victor. Où effectivement la pédiatre nous dit mais écoutez, quand même, là en termes d'avancement, ça ne va pas, il faut qu'on aille au centre médico-psychologique. De secteur, il y a des soucis par rapport au langage, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on a diagnostiqué Victor et qu'il a été accueilli pour un suivi pour des troubles de la sphère de l'autisme et qu'on a mis en place donc tout un système. Il prenait le taxi plusieurs fois par semaine alors qu'il était en maternelle. Il fallait qu'il y ait une AESH pour toutes ses activités. Il faut toujours, d'ailleurs. Et donc, on a entamé tout ce parcours-là de parents d'un enfant en situation de trouble autistique. Alors, il va très bien. Il est très content. Il est juste différent, il a pas le même logiciel. Pour ça, on utilise le terme neuroatypique. Je trouve que c'est pas mal, surtout pour parler des neurotypiques que nous sommes par rapport à ça, parce que c'est surtout, on le voit maintenant avec l'adolescence qui arrive et d'autres sujets que ses éventuels intérêts particuliers. On voit qu'il y a, vraiment c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il peut être extrêmement brillant, il a un parcours scolaire lumineux, mais avec toujours un besoin parfois d'accompagnement ou d'autres, qui fait que ça te place dans une situation de protection que tu dois lui apporter, mais aussi l'aider à s'autonomiser ou d'autres. Et voilà, le faire de manière pour ton enfant, c'est pas la même chose que de traiter avec des associations ou d'autres. Enfin, il y a quelque chose de profondément personnel. Et moi, ça m'a aussi beaucoup interrogé sur la place qu'on pouvait avoir et qu'on leur donnait, qu'on laissait à ces personnes autistes, par exemple, en termes d'expression, de place. Voilà, quelles sont les associations, parce que je m'occupe de vie associative, créées par des personnes autistes pour traiter de leurs sujets ou d'autres. Comment est-ce qu'on peut éventuellement vraiment les faire participer au débat ou d'autres, alors qu'on voit qu'on a quand même aussi, et sans les critiquer, une forme institutionnelle qui s'exprime de la part des familles, des parents ou d'autres, mais eux qui ont beaucoup de mal à s'exprimer ou à aborder directement ces sujets-là. D'ailleurs, on est fan de la série Astrid et Raphaël là-dessus, parce qu'il y a des vraies personnes autistes dedans, et ça nous parle très fort, quoi.
Moi, je vais te dire merci d'avoir accepté de partager un point de vie privé, et puis de faire cette passerelle avec, parce que bah, Fred, on se connaît par la vie associative, évidemment, par l'éduc-pop, évidemment, et puis de dire... Eh ben, en tant que parent, j'y suis aussi appelé à y trouver une place difficile. Le militant, il a envie d'être militant ou au contraire, il réfrène ses envies. Comment le parent se situe?
Là, c'est justement c'est ce que je disais en préparation. Je ne me suis pas engagé dans les associations, même comme Vivre avec l'autisme ou d'autres associations comme ça, pour lesquelles j'ai le plus grand respect et que j'essaie de soutenir comme je peux. Déjà, mais aussi parce que j'ai peur que ce soit le combat de trop et que je m'engage déjà beaucoup comme ça. Si en plus je m'engage sur quelque chose qui me touche d'aussi près, de manière aussi intime, je risque vraiment d'y passer trop de temps et de bouleverser les équilibres que je peux avoir entre la vie familiale et la vie professionnelle. C'est déjà compliqué. Et c'est aussi, je pense, pour garder une bonne dose d'indignation un peu à la Stéphane Hessel, pour ne pas être trop dans le système. Je le suis déjà beaucoup en étant impliqué comme ça, et je crois que c'est vraiment... Voilà, c'est une limite que je me suis posée, parce que sinon, j'y resterai, quoi.
Alors justement, pour inverser le indignez-vous, et ça sera la troisième et dernière date importante dans ta vie, elle vient comme un pendant, comme une preuve qu'on y arrive, c'est la visite de François Hollande qui vient inaugurer à Nancy l'antenne de l'Institut de l'Engagement. En 30 secondes, c'est quoi ?
Bah, c'est le résultat d'une idée que j'ai lancée et après qui a reçu un écho et comme un grain de sable est tombé, a dévalé le long de la dune pour arriver à cette visite présidentielle avec le cortège, avec le préfet et aussi avec des jeunes, et notamment un jeune qui était SDF, qui avait bénéficié d'un service civique, des jeunes sourds qui faisaient leur service civique à la gendarmerie, qui étaient accompagnés, qu'on a pu présenter au président de la République pour valoriser leur parcours et mettre en place, ça, c'est rare professionnellement d'avoir... un exemple à montrer de réalisation, enfin en tout cas dans mon domaine, de se dire ben voilà, ça c'est quelque chose dont je peux revendiquer la paternité sans forcément avoir assuré la gestation, parce qu'il y a tout un travail politique, financier, économique derrière, mais c'était l'idée de départ qui me revenait, quoi.
Merci d'être cet assemblier, merci pour ce beau partage d'expérience. À tout bientôt, Frédéric.